C'est pour ça que l'on nous a dit finalement le troisième genre, c'est lorsqu'on est conscient de soi-même, être conscient de Dieu et être conscient du monde ne font plus qu'un. Je crois que c'est important, là il faut le prendre à la lettre, les formules de Spinoza. Dans le troisième genre de connaissance, je suis indissolublement conscient de moi-même, des autres ou du monde, et de Dieu. Alors, ça veut bien dire, si vous voulez, c'est cette espèce de conscience de soi qui est en même temps conscience de la puissance. Conscience de la puissance qui est en même temps conscience de soi. Alors ensemble, je dirais oui, bon, pourquoi est-ce qu'on y est à la fois sûr et pourtant très vulnérable? Et qu'on y est très vulnérable parce qu'il s'en faut toujours d'un point minuscule que cette puissance ne nous emporte. Elle nous déborde tellement que, à ce moment-là, tout se passe comme si on était abattu par l'énormité de cette puissance. Et en même temps, on est sûr. On est sûr que c'est précisément l'objet de cette conscience extérieure qu'il soit en tant que puissance. C'est en moi que je le saisis. Si bien que Spinoza insiste énormément sur le point suivant, le bonheur du troisième genre, auquel il réserve le nom de béatitude, cette béatitude, c'est finalement un étrange bonheur. C'est-à-dire c'est un bonheur qui ne dépend que de moi. Est-ce qu'il y a des bonheurs qui ne dépendent que de moi? Spinoza dirait, c'est une fausse question, se demander est-ce qu'il y en a. Puisque c'est vraiment le produit d'une conquête. La conquête du troisième genre, c'est très précisément arriver à des états de bonheur ou en même temps des certitudes. À quoi qu'il arrive, personne d'une certaine manière ne peut lui sauver. Tout peut arriver. L'idée, vous savez, on passe parfois par des états comme ça. Hélas, non durable. Quoi qu'il arrive, peut-être que je pourrais mourir, oui, d'accord. Mais ça, il y a quelque chose qu'on ne peut pas me retirer, c'est à la lettre cet étrange bonheur. Alors ça, Spinoza, dans le livre 5, je crois, le décrit très admirablement. D'où je reviens plus à la première question qui, elle, est plus... Oui, je ne sais pas si j'ai répondu, mais donc je dirais, oui, c'est ce qu'on appelait la dernière fois, ce que j'appelais l'auto-affection, c'est précisément cette conscience de la puissance qui est devenue conscience de soi. Alors peut-être que là présente ces formes de conscience particulièrement, sous une forme particulièrement aiguë. L'impression de devenir invulnérable, enfin ça. J'arrive pas à dire l'extraordinaire modestie qui accompagne cette certitude. C'est une espèce de certitude de soi qui est dans une modestie. C'est comme le rapport avec une puissance. Ouais. Bon, alors pour en revenir à la question plus simple, Richard. Dans ces auto-affections qui vont définir le troisième genre et qui définissent déjà le second genre, je tiens juste à faire la récapitulation, parce que je crois que c'est très important pour le cheminement de l'éthique. Voyez, mais je crois vraiment qu'il part d'un plan d'existence où il nous a montré pour toutes les raisons du monde comment et pourquoi nous étions condamnés aux idées inadéquates et aux passions. Et encore une fois, le problème de l'éthique, c'est bien. Mais comment est-ce qu'on pourrait sortir des idées inadéquates et des passions? Or, il a accumulé tous les arguments pour nous montrer que, à la limite, à première vue, on ne peut pas en sortir. C'est-à-dire, il a accumulé tous les arguments, pour nous montrer que, en apparence, nous étions condamnés au premier genre de connaissance. Je prends un seul exemple, nous ne sommes pas libres. Bon, nous ne sommes pas libres. La haine que Spinoza a contre ce concept, qui nous paraît un très mauvais concept de liberté, nous ne sommes pas libres parce que nous subissons toujours des actions venant. C'est très simple, son idée, ben oui, on subit toujours les effets des corps extérieurs, la liberté de seul. Mais l'idée vraie, on ne voit même pas. Si on prend au sérieux la description du premier genre de connaissance du Spinoza, on ne voit même pas comment il peut être question dans son sens. On subit les effets des autres corps, il n'y a pas d'idée claire et distincte, il n'y a pas d'idée vraie, on est condamné aux idées inadéquates, on est condamné aux passions. Et pourtant, toute l'éthique va être le tracé du chemin. Mais c'est là-dessus que j'insiste, c'est un chemin qui ne préexiste pas. C'est vraiment l'éthique qui, dans le monde le plus fermé du premier genre de connaissance, va tracer le chemin qui rend possible une sortie du premier genre. Or, si j'essaie de résumer cette démarche, parce que ça me paraît vraiment la démarche de l'éthique, comment sortir de ce monde, encore une fois, de l'inadéquat et de la passion? Voici le fondamental, c'est les étapes de cette sortie. Si je résume tout, je dirais, la première étape est celle-ci. On s'aperçoit qu'il y a deux sortes de passions. On reste dans la passion, on reste dans le premier genre. Mais voilà, et c'est ça qui va être décisif, c'est une distinction entre deux sortes de passions. Il y a des passions qui augmentent la puissance d'agir. Ce sont les passions de joie. Il y a des passions qui diminuent ma puissance d'agir, ce sont les passions de tristesse. Les unes comme les autres sont des passions. Pourquoi ? Les unes comme les autres sont des passions puisque je ne possède pas ma puissance d'agir. Même quand elle augmente, je ne la possède pas. Donc, je suis pleinement encore dans le premier genre de connaissance. Ça, c'est la première étape, la distinction des passions joyeuses et des passions tristes. J'ai les deux, pourquoi? Parce que les passions tristes, c'est l'effet sur moi de la rencontre avec des corps qui ne me conviennent pas, c'est-à-dire qui ne se composent pas directement avec mon rapport, et les passions joyeuses, c'est l'effet sur moi de ma rencontre avec des corps qui me conviennent, c'est-à-dire qui composent leur rapport avec mon rapport. Deuxième étape. Lorsque j'éprouve des passions joyeuses, vous voyez, les passions joyeuses, elles sont toujours dans le premier genre de connaissance. Mais lorsque j'éprouve des passions joyeuses, effet de rencontre avec des corps qui conviennent avec le mien, lorsque j'éprouve des passions joyeuses, ces passions joyeuses augmentent ma puissance d'agir, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles m'induisent. Elle ne me détermine pas, elle m'induit, elle me donne l'occasion. Elle me donne l'occasion, elle m'invite à former la notion commune. Notion commune à quoi? Notion commune aux deux corps, le corps qui m'affecte et mon corps. Vous voyez, ça c'est une deuxième étape. Première étape, les passions joyeuses se distinguent des passions tristes parce que les passions joyeuses augmentent ma puissance d'agir tandis que les passions tristes la divisent. Deuxième étape, ces mêmes passions joyeuses m'induisent à former une notion commune. Commune au corps qui m'affecte et à mon propre corps. Question subordonnée à cette deuxième étape. Et pourquoi les passions tristes m'induisent pas à former des notions communes? Sinon, ça est très fort, il peut le démontrer mathématiquement. Parce que lorsque deux corps disconviennent, lorsque les corps ne conviennent pas, s'ils ne conviennent pas, ce n'est jamais par quelque chose qui leur est commun. Si deux corps disconviennent, c'est par leur différence ou leurs oppositions, et non pas par un quelque chose qui leur serait commun. En d'autres termes, les passions tristes, réfléchissez bien, parce que c'est très... il y a un passage théorique à comprendre, mais c'est très pratique en fait. Les passions tristes, c'est l'effet sur mon corps d'un corps qui ne convient pas avec le mien, c'est-à-dire qui ne compose pas son rapport avec mon propre corps. Dès lors, la passion triste, elle est l'effet sur mon corps d'un corps qui est saisi sous l'aspect où il n'a rien de commun avec le mien. Ce même corps, si vous arrivez à le saisir sous l'aspect où il a quelque chose de commun avec le vôtre, à ce moment-là, il ne vous affecte plus d'une passion triste. Quand il vous affecte d'une passion triste, c'est parce que vous saisissez cet autre corps comme incompatible avec le vôtre. Donc, ce qui nous a fait très bien dire, seules les passions joyeuses, et non les passions tristes, m'invitent à former une notion commune. Vous vous rappelez, ces notions communes, ce n'est pas du tout des choses théoriques. Et c'est des notions extrêmement pratiques. C'est des notions pratico-éthiques. Il ne faut pas du tout en faire, ça on ne comprend rien si on en fait des idées mathématiques. Donc, voilà que la passion joyeuse, qui est l'effet sur moi d'un corps qui convient avec le mien, m'invite à former la notion commune aux deux corps. Je dirais, à la lettre, pour rendre compte de cette deuxième étape, les passions joyeuses se doublent de notions communes. Or, les notions communes, elles, sont nécessairement adéquates. On l'a vu, je ne reviens pas là-dessus. Donc, vous voyez par quel cheminement. Alors, on avait tendance à dire, mais jamais on pourra sortir du premier genre de connaissance. Il y a un cheminement, mais c'est une ligne très brisée. Si j'ai pris conscience de la différence de nature entre les passions joyeuses et les passions tristes, je m'aperçois que les passions joyeuses me donnent le moyen de dépasser le domaine des passions. C'est pas que les passions sont supprimées, elles sont là, elles restent là. Le problème de Spinoza, c'est pas faire disparaître les passions, c'est comme il le dit lui-même, qu'elles n'occupent finalement que la plus petite partie relative de moi-même. Bon, mais ça veut dire quoi? Qu'elles occupent que la plus petite partie relative de moi-même? C'est pas tout fait, là aussi. C'est à moi de fabriquer les parties de moi-même qui ne sont plus soumises aux passions. Rien n'est donné. Rien n'est donné d'avance. Mais alors, comment fabriquer les parties de moi-même qui ne sont plus soumises aux passions? Voyez la réponse de Spinoza. Je fais la différence entre passion triste et passion joyeuse. J'ai des passions tristes, d'accord. Je m'efforce autant qu'il est en moi, comme il dit suivant sa formule, d'éprouver le plus de passions joyeuses possible et le moins de passions tristes possible. Bon. Qu'est-ce que je peux? Tout ça, c'est très, très pratique. Qu'est-ce que je peux? Vous direz, ça va ça, ça fait tout seul. Non, parce que comme le signale très bien Spinoza, on ne cesse pas. Les gens, ils ne cessent pas de s'empoisonner la vie, ils ne cessent pas de se vautrer dans la tristesse, tout va dans des situations impossibles dont on a parlé, ils se mettent dans des situations impossibles, tout ça. Bon, il faut déjà une sagesse pour sélectionner les passions de joie, essayer d'en avoir le plus possible. Bien. Et là-dessus, ces passions de joie. Elles restent subies comme passions. Elles m'invitent à former des notions communes, c'est-à-dire les idées pratiques de ce qu'il y a de commun entre le corps qui m'appelle de joie et mon corps. Ces notions communes sont des idées adéquates, et elles seules. Entre un corps qui ne me convient pas, entre un corps qui me détruit, et mon corps, il n'y a pas de notion commune. Car l'aspect sous lequel un corps ne me convient pas est incompatible avec la notion commune. En effet, si un corps ne me convient pas, c'est sous l'aspect où il n'a rien de commun avec moi. Sous l'aspect sous lequel il a quelque chose de commun avec moi, il me convient. C'est évident, c'est sûr. Hein? Quand vous voyez, au point où j'en suis seconde étape, j'ai formé des notions communes. Mais ces notions communes, si vous les prenez pratiquement, si vous n'en faites pas des idées abstraites, l'idée du rapport commun, c'est-à-dire, et en même temps, je le construis, un rapport commun entre le corps qui me convient et mon corps, ça revient à dire quoi? Ça revient à dire la formation d'un troisième corps dont nous sommes, le corps et moi, les pas. Ça ne résiste pas non plus. Ce troisième corps aura un rapport composé qui se trouvera et dans le corps extérieur et dans mon corps. C'est ça l'objet d'une notion commune. Donc des notions communes découleront, des notions communes qui sont des idées adéquates découleront des affects, des sentiments. Surtout ne confondez pas, voilà ce que je voulais dire, surtout ne confondez pas les affects qui sont à l'origine des notions communes et les affects qui découlent des notions communes. Cette confusion, ce serait un très grave contresens, à ce moment-là, l'éthique, elle ne pourrait plus fonctionner. Si vous dites, c'est grave. Quelle différence y a-t-il entre les deux sortes d'affects? Les affects qui sont à l'origine des notions communes, je viens d'essayer de dire ce que c'était, ce sont les passions joyeuses. Les passions joyeuses, encore une fois je me répète pour que ce soit très clair, j'espère, les passions joyeuses étant l'effet sur moi d'un corps qui convient avec mon corps, m'induisent à former la notion commune, c'est-à-dire l'idée de lien commun entre les deux corps. Et l'idée de ce qu'il y a de commun entre les deux corps, c'est l'idée d'un troisième corps, dont le corps extérieur et le mien sont les parties. Donc vous voyez que les sentiments qui m'induisent à former une notion commune, ce sont des passions de joie. Les passions de joie. On a vu que les passions de tristesse ne nous induisaient pas à former des notions communes. Tandis que les sentiments qui découlent des notions communes, ça n'est plus des passions de joie. Ce sont des affects actifs. Puisque les notions communes sont des idées inagréables, sont des idées adéquates, il en découle des affects qui ne se contentent pas d'augmenter ma puissance d'agir, comme les passions joyeuses. Il en découle des affects qui, au contraire, dépendent de ma puissance d'agir. Faites très attention à la terminologie de Spinoza et ne confondez pas, car lui ne le confond jamais, les deux expressions, ce qui augmente ma puissance d'agir et ce qui découle de ma puissance d'agir. Ce qui augmente ma puissance d'agir, c'est forcément une passion, puisque pour que ma puissance d'agir augmente, il faut bien supposer que je n'en ai pas encore la possession. ma puissance d'agir augmente au point que je tends vers la possession de cette puissance, mais je ne l'ai pas. Ça, c'est l'effet des passions joyeuses. Mais si je forme sous l'action des passions joyeuses, je forme une notion commune. À ce moment-là, je possède ma puissance d'agir. Parce que la notion commune, elle s'explique par ma puissance. Elle s'explique par ma puissance. Voilà donc, j'entre en possession de ma puissance, en possession formelle, je possède formellement ma puissance. De cette possession formelle à ma puissance d'agir par la notion commune, découle des affects actifs. Si bien que si j'essaie de résumer tous ces moments, je dirais, les affects actifs qui découlent eux-mêmes, des notions communes, c'est la troisième étape. Je dirais, voilà les trois étapes. Première étape, vous sélectionnez autant que vous pouvez les passions joyeuses. Deuxième étape, vous formez des notions communes. Ça, c'est bien fait, ça. Hein? Vous formez des notions communes qui viennent doubler les passions joyeuses. Elles ne les suppriment pas, elles viennent doubler les passions joyeuses. Troisième étape, de ces notions communes qui doublent les passions joyeuses, découlent des affects actifs qui redoublent les passions joyeuses. À la limite, les passions et les idées inadéquates n'occupent plus, mais je ne pouvais pas le dire avant, il fallait le faire, n'occupe plus que la plus petite partie proportionnelle de vous-même. Et la plus grande partie de vous-même est occupée par des idées adéquates et des affects actifs. Dernière étape, en effet, les notions communes et les affects actifs qui découlent des notions communes vont elles-mêmes être doublées par de nouvelles idées, de nouveaux affects ou de nouveaux affects, les idées et les affects du troisième sens, c'est-à-dire ces auto-affections-là qui nous restent un peu mystérieuses. Et qui définiront le troisième genre, alors que les notions communes définissaient seulement le deuxième genre. Voyez ? Alors, moi, il y a une chose qui me fascine pour en finir avec tout ça. La chose qui me fascine, c'est ceci, c'est que pourquoi est-ce que Spinoza ne le dit pas ? Évidemment, la réponse, elle doit être complexe. En fait, s'il ne le disait pas, c'est que tout ça, ce serait faux, ce que je dis. Il faut bien qu'il le dise. Et il le dit. Bon, alors ma question se transforme. S'il le dit, pourquoi il ne le dit pas très clair ? Eh bien, moi je crois, là c'est simple, il ne pouvait pas faire autrement. Il le dit où ça ? Il le dit, et ça fait tendre, très curieux. Il est inadéquat des passions joyeuses, sélection des passions joyeuses. Deuxième étape, formation des notions communes et affects actifs qui découlent des notions communes. Troisième étape, troisième genre de connaissance, idée des essences. Non plus notion commune, mais idée des essences familières et affects actifs qui en découlent. Ces trois étapes, c'est qu'il est présent comme trois étapes successives, mais dans le cinquième livre. Le cinquième livre, ce n'est pas un livre facile, on a vu pourquoi. C'est un livre de toute vitesse. Et encore une fois, pas parce qu'il est mal fait ou vite fait, parce que au troisième genre de connaissance, on atteint une espèce de vitesse de la pensée. Que Spinoza suit et qui fait de l'éthique, et qui donne à l'éthique cette terminaison admirable, quoi. C'est une espèce de terminaison, là, à tout à l'heure, une espèce de terminaison éclair. Bon. Il le dit donc en cinquième. Il semble. Notamment, j'attire
votre attention sur un théorème sur une proposition. Au début du cinquième livre, Spinoza dit « Tant que nous ne sommes pas tourmentés par des sentiments contraires à notre nature, nous pouvons. » Pour moi, c'est le texte, c'est un texte fondamental, puisque on ne peut pas dire plus clairement qu'est-ce que c'est que des sentiments contraires à notre nature. Pour garder le contexte, c'est l'ensemble des passions de tristesse. En quoi les passions de tristesse ou les sentiments de tristesse sont-ils contraires à notre nature? À la lettre, en vertu de leur définition même. À savoir, ce sont les effets de la rencontre de mon corps avec des corps qui ne conviennent pas avec ma nature. Donc, c'est à la lettre les sentiments contraires à ma nature. Eh bien, tant que nous ne sommes pas tourmentés par des sentiments, c'est-à-dire, tant que nous sommes tourmentés par de tels sentiments, tant que nous avons une tristesse, que nous éprouvons une tristesse, la question de former une notion commune relative à cette tristesse. Je ne veux former une notion commune qu'à l'occasion de choix. C'est ça. De voir ainsi. Seulement, lorsque j'ai formé une notion commune à l'occasion de choix, et en même temps, il n'y a pas tellement de nécessité, là j'insiste pour en dire. Mais ce qui me trouve, c'est que, évidemment, les passions joyeuses m'induisent à former. Ça, c'est comme un bon usage de la joie. Mais on conçoit à la limite quelqu'un qui éprouverait des passions joyeuses, par le hasard serait bon, le sort le favoriserait, il aurait beaucoup de joie. Et il n'y aurait pas, il formerait pas de notion. Il resterait dans, il resterait tout à fait dans le premier genre de connaissance. Là, c'est évident que c'est pas une nécessité. Les passions joyeuses ne me contraignent pas à former la notion commune. Elles me donnent l'occasion. C'est là où entre le premier et le second genre de connaissance, il y a comme une espèce de fausse. Alors, je prends ci ou je prends ça. Si la liberté décide à un moment chez Spinoza, il s'en fait. Je pourrais en effet rester, même éprouvant des passions joyeuses, je pourrais rester éternellement dans le premier genre de connaissance. À ce moment-là, je fais un très mauvais usage de la joie. Si fort que je sois induit à former des notions communes, je ne suis pas, proprement parler, déterminé à le faire.